France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir le philosophe Dominique Bourg qui depuis près de 35 ans se demande ce qui nous empêche de changer notre façon de vivre afin de préserver la planète et accessoirement la survie de l'humanité. Dominique Bourg, professeur à l'Université de Lausanne, a été longtemps vice-président de la Fondation Nicolas Hulot. Il est avec nous ce soir alors que la pétition « L'affaire du siècle » en est à plus de 2 millions de signatures, preuve que le sujet intéresse les Français, y compris pendant la crise des Gilets jaunes. On parlera également démocratie et référendum avec celui qui est aussi citoyen suisse et qui est donc bien placé pour nous dire ce que représentent ces votations à répétition dont les Helvètes ont le secret. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, un reportage de Claire Chaudière sur le grand débat national et les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, Solicycle, une association qui vous apprend à réparer vous-même votre vélo. À 19h20 au téléphone sonne, pourquoi une telle colère contre les 80 km/h alors que le premier bilan en termes de sécurité routière est positif ? On en parlera avec le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, et avec le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, Patrick Septier. Vous pouvez déjà nous appeler au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Dominique Bourg.
Bonsoir Claire Servageant.
Bienvenue sur France Inter. Vous Merci. Êtes philosophe, professeur à la faculté des géosciences et de l'environnement de Lausanne, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Ça fait des années que vous travaillez sur les questions écologiques. Pendant des années, vous et d'autres avez un petit peu prêché dans le désert, faut bien le dire, sans que le grand public ne se saisisse de ces questions. Or voilà que la pétition, je le disais, lancée par 4 ONG, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Notre Affaire à Tous, Greenpeace France et Oxfam France, est en train de faire un tabac. On en est à plus de 2 millions de signatures, c'est un record pour une pétition en France. Ça vous réjouit ? Même si c'est qu'une pétition ?
Bien sûr, non seulement c'est un record en soi, mais c'est aussi un record en termes de temps, parce qu'on a effleuré les 2 millions en quelques jours presque. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire et c'est très symptomatique du fait qu'on est en train de franchir, et pas qu'en France, c'est à l'international, un seuil en termes de mobilisation climatique. Ça, c'est très clair. Vous regardez par exemple en Belgique, à quelques semaines près, c'est pratiquement 75 000 personnes, et là récemment des lycéens.
Hier, il y avait les lycéens.
Voilà,
dans
qui se sont mobilisés dans la rue. À Lausanne, là, franchement, une ville où il n'y a quand même pas des manifestations tous les jours, je peux vous le confirmer. Il y a eu une dizaine de jours, 8 000 lycéens, ce qui pour la Suisse, c'est complètement fou. Et dans l'intérieur même de la Suisse, c'est plusieurs dizaines de milliers de lycéens qui ont suivi l'appel à la grève climatique de Greta Thunberg,
la
jeune
suédoise,
voilà, que tout le monde maintenant désormais connaît. Donc, c'est clair que ça change vraiment. Et rappelez-vous, en France, 8 septembre, 13 octobre, 8 décembre, c'est à chaque fois plus de 100 000 personnes, pas nécessairement les mêmes, qui se sont mobilisées sur le climat. C'était du jamais vu. Autrefois, à quelques rares exceptions, on m'a rappelé là récemment une manifestation à New York en 2014, mais de manière générale, c'était quelques centaines, voire quelques milliers de personnes qui se mobilisaient sur le climat. Je le répète,
vous,
on a franchi un seuil.
C'est une question de fond, là. Il y a quelque chose qui change.
Oui, alors il y a quelque chose qui change. Très clairement, c'est très simplement, moi ça fait des décennies que je raconte qu'effectivement tant que les phénomènes ne sont pas tangibles, accessibles à nos sens, on ne se bougera que fort peu et très à la marge sur tous les plans. Et or, ça n'est plus le cas. Je le redis, 2018 a été une année extrêmement particulière. Vous avez eu des vagues de chaleur de mai à octobre, du nord de l'hémisphère nord jusqu'au sud de l'hémisphère nord. Des pluviosités extraordinaires, il y en a eu en Suisse, à Sion, à Lausanne. Alors vous avez évidemment la France, les inondations de l'Aude. Vous avez eu le Japon en juillet, c'était terrible. Vous avez des incendies en Suède, on n'avait jamais entendu parler de ça. La Californie, 5 années de suite, et là cette année...
Avec un bilan très lourd cette année.
Très très lourd, avec une chaleur atteinte qu'on n'avait en fait jamais connue. Donc on a des signaux très forts, à quoi se rajoute... Alors là je vais remonter un peu dans le temps, mais pour le cyclone Harvey en 2017... Ça a été, si vous voulez, le coup le plus énorme de toute l'histoire. C'est à soi seul, c'est le coût des assurances, couvert par les assurances, c'est 180 milliards de dollars. C'est gigantesque, c'est énorme. Donc maintenant, le changement climatique devient sensible. Et il faut dire aux Français qu'en ce moment, depuis plusieurs semaines, vous avez des températures qui avoisinent les 50 degrés en Australie, avec des chauves-souris qui tombe de chaleur et de déshydratation. C'est énorme. Et donc, et c'est facile à comprendre parce que si vous voulez depuis ce qu'on appelle l'Holocène, ça fait 11 700 ans, voilà, eh bien, en gros 12 000 ans si vous voulez, on est resté dans un tunnel de variation des températures de 1 degré. Quand on a eu le fameux petit âge glaciaire, la température était descendue de 1 degré. Je vous rappelle que ça avait donc procuré des difficultés agricoles énormes et qu'en fait, quand la, vers le milieu du 14e, entre 1347 et 1349, 20 ans après, arrive la peste noire dans l'ouest de l'Europe, c'est la moitié de la population qui disparaît parce que la peste touche une population dénutrie. Voilà, on est toujours resté dans cette amplitude de variation d'un degré. Or là, on sort. On en est à 1 degré 1 d'augmentation de la température par rapport au, comment dire, à la fin du 19e siècle. Et encore, en fait, si vous voulez, entre la fin du 19e siècle et puis ce plateau des années 50-80, on a pris 2 dixièmes. Depuis les années 80, c'est 9 dixièmes de degré d'augmentation, donc en moins d'un demi-siècle. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et malheureusement, nous ne sommes qu'au début. Donc en fait, les gens vont sentir de plus en plus le poids du changement physique et biologique du monde autour d'eux.
D'où peut-être cette prise de conscience aujourd'hui. Parce que c'est vrai que jusque-là, il y a eu des alertes. Les scientifiques nous disaient ce qui se passait. Mais on faisait pas la connexion entre ce que nous disaient les scientifiques et puis notre quotidien, notre vie, la survie de l'humanité.
Tout à fait. Mais c'est
vous, le philosophe, comment vous expliquez ça quand
c'est
la connexion?
C'est très clair. C'est-à-dire que nous restons des animaux, hein. Franchement, il y a beaucoup de gens qui veulent toujours pas s'en apercevoir, mais donc on a des réflexes et des manières de se rapporter au monde qui sont très canassées en quelque sorte. Et en fait, on a été produit par l'évolution pour vraiment bouger quand on est confronté à un danger immédiat. Là, on soit la fuite, soit une réaction autre de défense. Lorsque le danger est lointain, on ne bouge pas. Et effectivement, si vous voulez, depuis la création du GIEC en 1988, eh bien, si vous voulez, la communauté scientifique, avec ses rapports successifs, nous a dit, mais attention, la température va augmenter à la fin du siècle. En fait, on n'en a rien à faire. Ça a changé avec le dernier rapport, le rapport SR15, parce que là, on a dit aux gens, mais attention, vous avez 10 ans pour changer, et regardez la différence entre 1,5 degré et 2 degrés. Et cette différence, elle va jouer dans les 20 ans qui viennent. On n'est plus à la fin du siècle. Et ça, ce discours, si vous voulez, de la communauté scientifique, il est corrélé désormais à un ressenti. Beaucoup de gens, cet été, ont suffoqué dans leur appartement. Et alors, en Australie, c'est autre chose. Il y a des endroits où la température ne redescend pas, écoutez-moi bien la nuit, ne redescend pas en dessous de 36 degrés. Dites ça à un Français, ça va l'effrayer.
Oui, c'est donc épouvantable, on est
d'accord. Oui, c'est effectivement épouvantable. Bon, voilà, ça y est, maintenant, on est parti. Alors, ça n'empêche pas le déni. Et je peux autant vous le dire, le déni va se renforcer.
Pour revenir juste à la pétition dont on parlait au début, parce que c'est une pétition, mais c'est une pétition qui est vouée aussi à se transformer en procédure.
En procédure juridique.
Pour une action climatique. Est-ce que ça peut jouer un rôle? Est-ce que ça a une efficacité d'attaquer, par exemple, un État? Je pense à ce que fait Damien Carême à Grande-Synthe, par exemple.
C'est magnifique ce que fait Damien Carême à Grande-Synthe, il faut le dire. C'est un personnage assez extraordinaire, quand même. Donc, effectivement, là, on est dans le merde. Alors, vous savez, il n'y a pas que ça. Depuis la première affaire, elle a commencé en 2015, c'était l'affaire Urgenda en Hollande. Où c'est un collectif de citoyens qui s'est justement adressé à la justice et la justice a eu un petit effet quand même. Vous avez l'affaire, je crois, Juliana aux États-Unis, c'est des enfants, c'est un groupe d'enfants. Vous avez eu l'affaire Legari au Pakistan, cette fois-ci c'était un paysan, etc. Vous avez d'autres affaires au Pérou, etc. En fait, ça se multiplie partout. Alors évidemment, on peut pas demander aux juges de faire la politique à la place des autorités publiques. Encore que faites attention, dans un domaine anglo-saxon, le juge peut avoir une incidence sur la société qui n'est pas négligeable. Avec la séparation des pouvoirs chez nous, la forme de répartition, c'est pas le cas. Mais c'est très symbolique aussi. Ça veut dire que de manière générale, la société civile commence à s'inquiéter et faire monter par cette voie-là et par d'autres, on vient de voir la pétition qui va déboucher sur une action en justice, faire monter son inquiétude, son angoisse légitime aux autorités publiques.
On reviendra évidemment sur tous ces sujets, Dominique Bourg, on a le temps jusqu'à 19h, mais on va passer à l'actualité de la semaine ici en France, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Jérôme Chélius. À la une cette semaine, le meilleur bilan de la sécurité routière depuis que les chiffres de la route existent. La première manifestation des foulards rouges et toujours la question du maintien de l'ordre avec une nouvelle loi anti-casseurs qui divise les députés.
On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Mais oui, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais où sommes-nous? Mais réveillez-vous, mes chers collègues. Parce que le jour où vous aurez un gouvernement différent avec une droite extrême au pouvoir. Vous verrez, mes chers collègues. C'est une pure folie.
Le député qui s'adresse ainsi à ses collègues du Palais Bourbon n'est pas un dangereux gauchiste, mais le centriste Charles-Amédée de Courson. Comme bien des défenseurs des droits humains qui dénoncent une loi de circonstance, il s'inquiète de la reprise par la majorité d'une proposition de loi LR. Mais le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, défend cette nouvelle loi anti-casseurs.
Chaque semaine, une petite minorité de brutes menace, vise, attaque. Nous avons choisi de défendre les millions de Français qui n'en peuvent plus plutôt que quelques milliers de brutes. Ça suffit.
Une nouvelle loi sur le terrain de l'ordre public alors que la liste des estropiés, éborgnés et blessés s'allonge chaque semaine.
Ça suffit.
Samedi dernier, c'est une des figures des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, qui a été touché place de la Bastille, tout un symbole.
J'ai subi deux attaques de la part de la police.
Menace.
Une grenade qui m'arrive en bas des pieds, qui m'assourdit et qui m'étourdit.
Vise.
Trois secondes après, l'impact de la LBD 40 qui m'arrive à l'œil.
Attaque.
Pas question pour autant de renoncer aux tirs de balles de défense. Le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez.
Bien sûr, nous allons continuer à utiliser ces armes et uniquement dans des contextes de violence.
Pas de violence dimanche dernier lors de la première manifestation des foulards rouges à Paris. Pour la première fois, en effet, des manifestants sont venus dire leur ras-le-bol des gilets jaunes.
Je ne suis pas macroniste, je viens juste aujourd'hui défendre la République quelque part. Des manifestations pendant des mois et des mois alors qu'il y a eu des concessions de fait, je ne suis pas d'accord.
Une bonne nouvelle cette semaine, elle concerne la sécurité routière. Le Premier ministre n'est pas peu fier.
Ce sont des résultats historiques. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur les routes françaises.
Édouard Philippe fait clairement le lien avec les 80 km/h qu'il a porté, mais il sait que le sujet divise, alors il marche sur des œufs.
Je crois donc qu'il est tout à fait légitime de discuter de ce sujet, mais qu'il serait fou de baisser le niveau d'ambition.
Dans 4 mois, les européennes, avec une tête de liste qui est loin de faire l'unanimité chez les Républicains, le jeune François-Xavier Bellamy, philosophe versaillais, s'est prononcé à titre personnel contre l'avortement. Du coup, ils sont nombreux à prendre leur distance avec lui, à l'image de Christian Estrosi et Rachida Dati.
Ses convictions personnelles ne sont pas les miennes. Elles ne seront jamais les miennes.
Je me reconnais dans Simone Veil et vous comprendrez qu'entre Simone Veil et M. Bellamy, j'ai le sentiment que la vision européenne que nous pouvons avoir aujourd'hui est en train un peu d'être étriquée par rapport à ce que nous a offert cette grande dame.
À gauche, certains rêvent d'union pour ces européennes. C'est le cas du tout jeune mouvement Place Publique qui rêve d'unir les socialistes et les écologistes. L'ex-vert Noël Mamère.
Nous avons des partis politiques qui font preuve d'une grande absurdité, qui ont un comportement que je qualifierais de tragique.
En attendant, nouvelle mobilisation pour le climat le week-end dernier.
Il y a urgence, urgence, urgence. Et face à ça, on a des présidents, surtout Trump, qui se dit « ça n'existe pas, on continue comme on l'a toujours fait et donc c'est pour ça qu'on est là ». C'est pour leur dire que c'est un problème réel et urgent.
Et encore merci à Jérôme Chélius. Dominique Bourg, qu'avez-vous retenu de ce petit résumé?
Eh bien, ce que je retiens de tout ce résumé, c'est que le point pratiquement commun à toute chose, c'est une espèce de tolérance croissante à la violence. L'histoire des 14 personnes éborgnées, c'est quand même quelque chose. Enfin, ce genre d'armes à disposition de la police dans le pays dans lequel je vis la plupart de la semaine, la plupart du temps, c'est pas possible. C'est absolument inimaginable. Alors, de même que sont inimaginables les violences qu'on a vues dans les manifestations du côté de certains manifestants. Alors là, on a une montée de la violence. Condamner le droit à l'avortement, je suis désolé, c'est aussi une forme de violence. De violences faites aux femmes qu'on veut maintenir. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu d'autre? Les 80 km/h. Enfin, attendez, vous rigolez ou quoi? Protester contre les 80 km/h pour des raisons de sécurité publique, pour des raisons d'environnement, je suis infiniment désolé, mais c'est une mesure que je soutiens de toute mon âme.
Et c'est pourtant une mesure qui est contestée par bon nombre de gilets jaunes depuis le début.
Oui, évidemment, et c'est ce qui montre un petit peu le côté paradoxal de ce mouvement, où on a le meilleur, et le point de départ était vraiment excellent, parce qu'ils avaient raison de protester contre la manière dont cette pseudo-taxe carbone a été mise en place. Ça, ils ont totalement raison, ils ont des revendications sur la démocratie qui sont intéressantes. Enfin voilà, il y a tout et n'importe quoi dans les gilets jaunes, ça va du tuning aux revendications démocratiques, dont certaines sont censées, dont on va voir, sont peut-être plus légères.
Mais bon, donc voilà. Emmanuel Macron a eu raison de suspendre cette taxe carbone là?
Ah non. Non, ce qu'on attendait, c'était pas du tout qu'ils suspendent la taxe carbone. C'est d'ailleurs pas un service à rendre à ceux qui sont de son nas. de précarité énergétique. Ce qu'il faut faire, alors c'est déjà, bon, par exemple, vous prenez même la Californie où la moitié de la taxe va aux infrastructures, l'autre moitié de la taxe va aider les plus pauvres. Et je vous rappelle que, bon, moi j'étais à la Fondation Hulot, je me souviens très bien, quand on avait proposé la contribution climat-énergie, c'était clair. En fait, il n'y avait pas un centime qui allait à l'État. La taxe était prélevée dans un premier temps, elle était ensuite rassemblée, elle était redistribuée arithmétiquement à tout le monde. En d'autres termes, moins vous aviez d'argent, moins vous aviez de niveau de dépenses et plus vous receviez. Donc on donnait à la fois le signal prix aux gens qui sont dans la mouise, mais on les aidait. Alors c'était sans doute pas suffisant comme aide, hein, parce que c'est pas facile quand vous étiez coincé avec la montée du coût immobilier et puis la baisse du coût énergétique. Ben, vous allez, faute de mieux, vous réfugier ailleurs et après vous vous retrouvez coincé. Donc là non, il faut des mesures d'accompagnement. C'est pas supprimer la taxe carbone, bien sûr que non.
Vous avez dit, vous l'avez rappelé, Dominique Bourque, vous avez longtemps été à la Fondation Hulot. Vous avez applaudi le jour où il a démissionné, où il a annoncé ça sur France Inter.
Alors, j'ai fait plus qu'applaudir. Pour moi, c'était un soulagement. Déjà parce que c'est un ami, j'aime beaucoup Nicolas, et je sentais qu'il souffrait. Enfin, la dissonance cognitive devenait vraiment trop forte.
Il perdait son temps dans ce gouvernement, c'est ça ?
En tout cas, il a perdu son énergie, et oui, puis il n'a pas réussi à faire grand-chose, parce que de toute façon, tout ce qui était proposé par le ministère d'écologie, en général, est bloqué à l'interministériel ou ailleurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'avait absolument pas les coups des franges, puis je ne veux pas rentrer dans certains détails, je ne veux pas rentrer dans des polémiques, si vous voulez, politiques.
Bon, non, mais au niveau, par exemple, du sommet de l'État, Emmanuel Macron, il n'est pas sensible à ces sujets?
Bah écoutez, il a des très jolis discours, mais dans les actes, on ne voit rien. Et je l'ai vu avec ce ministère de l'écologie dont il est pratiquement rien sorti. Donc au bout d'un moment, il a démissionné, puis il a démissionné d'une très belle manière. C'est-à-dire, il a expliqué pourquoi.
Et sur une très belle radio. Et
on est on
est d'accord. Un petit mot de l'écologie politique, parce qu'on entendait Noël Mamer dans ce petit résumé tout à l'heure, qui était à une réunion de place publique, qui espère réunir socialistes, écologistes, etc. Yannick Jadot, il n'a pas raison de rester sur sa ligne. Après tout, les élections européennes, c'est à la proportionnelle. Les gens vont se compter, les Verts français vont rejoindre les Verts allemands, belges, etc.
Alors, moi, je lui donne raison, mais pas pour la même raison, en quelque sorte. Alors déjà, je voudrais le dire, moi, je ne suis pas un politique au sens classique, et je n'ai absolument pas envie de le devenir. C'est-à-dire, sur quelqu'un comme Raphaël Glucksmann, c'est un type très bien, j'ai absolument rien, je trouve que ce qu'il dit, en général, très intéressant, je suis assez proche. Sur la liste des Verts, Michel Rivasi, c'est une députée qui a fait un travail magnifique, Éric Piolle, c'est un maire extraordinaire, on a parlé tout à l'heure de... Bon, c'est pas parce que ces gens sont sur une autre liste que je vais me mettre à les critiquer. C'est pas comme ça que j'entends les choses. En fait, ce qu'on propose avec Delphine Batho, c'est autre chose.
Oui, parce que c'est ça. Vous avez annoncé que vous rejoignez Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie.
Si vous voulez, on a tous lu le conte des trois souhaits. Hein. J'espère que je ne vais pas finir par le réaliser à mes dépens. Mais vivre, c'est choisir. Alors, on n'a pas de choix que de choisir. Donc en fait, nous, on préfère dire la chose suivante. Depuis qu'elle existe, l'écologie politique a toujours été une roue de secours. Elle est toujours venue à l'arrière. Elle a toujours essayé d'exister en grappillant des petits machins. Ben, c'est franchement plus le problème.
Alors, on précise quand même que Delphine Batho, et puis vous qui la soutenez, elle vient de publier un manifeste pour une écologie intégrale.
Hein. On va expliquer l'adjectif.
Voilà, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'opposer les terriens aux destructeurs, si j'ai bien lu.
Bah, c'est déjà bien comprendre une chose. Si vous voulez, l'écologie intégrale, ça veut dire que les problèmes sociaux et les problèmes écologiques, c'est le recto et le verso d'une même feuille de papier. En fait, c'est quoi les inégalités de revenus? C'est des inégalités concernant l'accès aux ressources. C'est directement écologique. Ça, c'est le premier sens du mot écologie intégrale. Le deuxième sens du mot écologie intégrale, il est qu'en fait, eh bien, là, on a le sol qui se dérobe sous nos pieds et le ciel qui nous tombe sur la tête. C'est le premier problème. Si vous ne faites pas face à celui-ci, vous ne ferez face à aucun autre. Donc, on intègre à l'intérieur de ce souci les autres soucis. Et on les décline en fonction de ce premier souci. Ça, c'est l'intégralité des questions environnementales, à ne pas confondre avec intégrisme, s'il vous plaît.
Oui, mais enfin, quand vous opposez comme ça terrien et destructeur, c'est un peu manichéen, non? Surtout dans un pays comme la France, qui est tout le temps en train dans l'opposition, la confrontation, le conflit.
Oui, il y a une part de manichéisme, mais si vous voulez, ce manichéisme, il est structurel et structurant. En fait, imaginez que vous n'ayez aucun repère. Comment vous allez organiser la vie politique? Comment vous allez organiser les choix? Alors, on part d'une chose manichéenne, rien, destructeur, ok. Puis après, ben, on s'aperçoit que dans les terriens, on est, comme le disait Clive Hamilton, on est tous un peu climato-sceptiques par défaut. Donc, on est tous un peu destructeurs. Après, il y a les choix collectifs qu'on peut faire et on les organise autour de ça. On est tous un peu destructeurs, mais on va s'arranger pour que collectivement, on devienne terrien.
On va passer, Dominique Bourg, à présent au reportage de la semaine. Il concerne le grand débat national, puisque nous sommes en France en ce moment dans un grand débat national, sur lequel table l'exécutif pour tenter de sortir de la crise des gilets jaunes. Et si certains boycottent ce grand débat, il y en a d'autres qui se prennent au jeu, qui y participent. L'exemple, avec ce débat organisé mardi soir à Poissy, dans les Yvelines, c'est un reportage de Claire Chaudière.
Bon, on va y aller.
Deux minutes, pas plus de temps de parole par personne. Dès le départ, les idées fusent.
Moi, j'étais pour la suppression des niches fiscales.
Peut-on vérifier que les présidents de nos grandes entreprises habitent en France et payent leurs impôts en France?
L'impôt sur le revenu, même les gens du RSA devraient être taxés à 1 euro au moins symbolique.
Attendez le micro.
Justice sociale et fiscale, équité et transparence reviennent encore et encore.
Il y a des pays qui publient les notes de frais des députés, notamment. Mais moi, je voudrais bien les consulter, les notes de frais sur Internet, et si je ne suis pas d'accord, que ça devienne public.
Puis la question des aides sociales s'impose à plusieurs reprises, déclenchant même quelques tensions.
La suppression de l'aide médicale d'État, c'est très bien, on fait l'humanitaire, mais on n'a plus les moyens.
On est confronté quotidiennement à « je ne vais pas venir travailler parce que j'ai du chômage, j'ai des aides qui me rapportent plus que ce que vous me proposez comme travail ».
Madame, vous parlez que des jeunes ne veulent pas travailler ou ont du mal à trouver du boulot. J'ai l'impression qu'on fantasme où il y a des quartiers où les gens vivent de l'assistanat, ce qui est complètement faux.
Monsieur, la nécessité d'un renouveau démocratique aura finalement été le sujet le moins clivant.
En fait, je voulais parler du vote, le rendre obligatoire.
Le modèle politique dans lequel on vit n'est plus valable.
Quoique,
je crains de ne pas vivre exactement dans le même pays, dans la même société que vous, messieurs. Je n'ai quand même pas le sentiment que la volonté populaire soit si bafouée que ça, systématiquement en France.
À la sortie, certains sont un peu assommés, comme Mohamed et Corinna.
Il faut qu'on se rassemble. J'ai l'impression qu'on est en train de cliver la population entre elles. Et ça, c'est très dangereux.
Je suis plutôt inquiète des référendums, tout ça, parce qu'il y a une non-acceptation de l'autre, du pauvre par le riche, de l'étranger. On ne s'accepte plus.
Oui, j'ai eu l'impression qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas du tout les mêmes avis.
Cécile, elle, a bien constaté des divergences, mais porte un regard plus positif sur la soirée.
Je trouve ça vraiment bien, justement. Les gens commencent à parler.
Et sur l'état de notre société.
Si on n'a plus l'échange, où les gens se ferment, c'est là où la violence apparaît.
Ce soir, elle quittera la salle des débats plutôt apaisée.
Dominique Bourg, cette crise des gilets jaunes, elle a montré une soif de démocratie directe, de référendum. Alors là, il s'agit on réclame le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Vous, qui êtes citoyen suisse, vous êtes aux premières loges pour pouvoir comparer et nous dire ce qu'on pourrait importer de Suisse.
Tout à fait. Alors, cela dit, dans un des très bons côtés des gilets jaunes, c'est que c'était plutôt la partie invisible. Ils n'ont pas pris des gilets jaunes pour rien, qui se rend visible et qui s'intéresse à nouveau à la chose publique. Ça, en soi, c'est quand même assez extraordinaire. Ça mérite d'être souligné. Alors après, qu'il y a des débordements, qu'on puisse effectivement instrumentaliser un délire d'égalité pour hisser les gens les uns contre les autres. Bon, c'est humain. Il faut essayer de le dépasser. Alors cela dit, oui, il y a parfois un peu des illusions, si vous voulez, autour de ce que le référendum. Hein. En France, chaque année, vous avez, je crois, 2000 lois, il me semble, hein, j'espère ne pas dire de bêtises.
Je suis incapable de
oui, mais enfin, en tout cas, c'est un chiffre astronomique.
Donc une partie qui permet de transposer des directives.
Voilà, hein, c'est un chiffre astronomique. Et en fait, c'est d'ailleurs ce qu'avait bien compris Benjamin Constant au début du 19e siècle. S'il y a une démocratie représentative, ben, c'est tout simplement parce que on est tous assez occupés à nos affaires économiques, hein, et qu'effectivement, on peut pas prendre en charge la totalité de la vie publique. Donc, dire aux gens qu'avec le RIC, c'est le peuple qui en depuis le peuple, ça veut rien dire. C'est des gens très différents, avec des intérêts contradictoires, donc c'est déjà mal parti. Mais qui vont décider de tout et à chaque seconde, c'est ridicule. Faut sortir de ça. La Suisse qui pratique si vous voulez, les votations, c'est-à-dire ce que nous on appellerait un référendum d'initiative populaire. Attention, d'initiative populaire. Il y a 5 à 6 campagnes de votation dans l'année. En général, on n'a pas qu'un seul sujet. On a plusieurs sujets. Il y a vraiment une campagne d'information, de préparation. Vous avez toujours un petit livret qui accompagne avec un exposé en quelque sorte des motifs, des raisons de voter dans un sens ou dans un autre. Et puis, tous les partis politiques donnent leurs conseils. La participation est aux alentours de 30-35%. Le résultat n'est que, enfin, il y a une exception, mais jamais remis en cause. en dépit de cette faible participation, parce que chacun reçoit l'enveloppe chez lui. Alors, plusieurs choses.
Vous êtes en train de nous dire que c'est une culture, hein?
C'est une culture. C'est une culture. Et c'est une culture. Et contrairement à ce qu'on peut croire, si vous voulez, le référendum d'initiative populaire dans la vie suisse, c'est pas du tout quelque chose qui s'oppose aux partis. Souvent, ce sont des partis qui organisent l'initiative populaire, premièrement. Deuxièmement, même moi, qui vote donc plusieurs fois par an en Suisse, que j'ai la double nationalité, parfois il y a des sujets, je suis désolé, je n'ai pas d'avis.
Les vaches à cornes, par exemple, vous n'aviez pas. Là, vous en aviez un.
Oui, là, j'en avais un très très ferme, ça, je pourrais vous l'expliquer, mais on n'a pas le temps. Mais bon, mais parfois, c'est des sujets complexes, je n'ai pas d'avis. Et donc, c'est pour ça très intéressant aussi. Moi, en Suisse, si j'avais dû m'engager en politique, je serais engagé chez les Verts. Je le fais pas en France. Bon, et donc je suis en général l'avis que donnent les Verts. Soit j'ai des bonnes raisons pour le faire, soit parfois voilà. Et puis parfois je participe aussi à des initiatives.
Mais vous qui connaissez bien les deux pays, vous pensez qu'il est possible de s'inspirer de l'exemple suisse ici en France?
Absolument. Alors attention, si vous faites un référendum et qui est en quelque sorte dont l'initiative vient du pouvoir, vous savez très bien qu'on répond pas à la question posée, on répond à celui qui la pose. Première chose, le référendum c'est initiative populaire. Donc c'est le peuple entre guillemets qui se répond à lui-même. Ça c'est la première chose. Vous avez plusieurs questions. Ça c'est très important. Ça évite de passionner si vous voulez. Certaines choses. Et comme je vous l'ai dit, on ne déjoue pas du tout la démocratie représentative. C'est une espèce de
mariage des deux, démocratie
directe. Oui, c'est un mariage des deux parce qu'il y a certaines décisions dont on pense qu'elles sont trop importantes pour être laissées seulement aux représentants. Alors en même temps, c'est une pédagogie. J'aime bien donner cet exemple aux Français. Je vais très très vite. C'est il y a quelques années, on a proposé aux Suisses de passer de 4 à 6 semaines de congés payés. 75% de la population a dit non.
Alors là.
Ah mais c'est très simple.
Ah oui, non, mais c'est vrai que pour un Français.
Ben non, mais justement, mais c'est pour ça que je voulais vous donner cet exemple. C'est très simple, c'est un pays très exportateur.
Vois cette démarche qu'elle a, ce beau sourire qu'elle a, vois cette grâce qu'elle a. Avec ce charme-là, avec les jambes qu'elle a, avec les lèvres qu'elle a, avec ses poses, avec son teint de rose, on pourrait faire un opéra.
Ouais, mais avec ce qu'elle n'a pas, on ferait 20 opéras, sans bobine de cinéma, ce que t'es bête.
Vois cette élégance qu'elle a, cette prestance qu'elle a, la jolie robe qu'elle a, avec ce charme-là, avec la classe qu'elle a, avec l'allure qu'elle a, son air de vivre, on pourrait faire un livre digne d'Alexandre Dumas.
Ouais, mais avec ce qu'elle n'a pas, on ferait toute une librairie, un catalogue tous les mois. Ah, oh, ce que t'es bête.
Qu'est-ce que tu veux? Je suis sentimental et je ne veux pour rien au monde lui résister plus longtemps. Je sais ce qu'elle n'a pas, mais je suis tellement fou de ce qu'elle a et que tant d'autres n'ont pas. Vois le compte en banque qu'elle a, les jolis gestes qu'elle a, vois les fourrures qu'elle a, avec ce charme-là, avec le vernis qu'elle a, avec la voiture qu'elle a, avec ses diables, sa maison de campagne, on oublie tout ce qu'elle n'a pas.
Bon. Eh oui, hommage à l'immense compositeur qui nous a quittés cette semaine, Michel Legrand. Elle a pas, choix musical signé Djoubaka. Et je vous renvoie, pour faire mieux connaissance avec Michel Legrand, à la playlist de France Inter. Vous verrez, il y a plein de surprises.
France Inter, le 18-20, une semaine en France.
Toujours en compagnie du philosophe Dominique Bourg, on va parler un petit peu de votre parcours. Dominique Bourg, vous avez grandi dans le Jura, c'est ça, à Tavaux, près de Dole. Vous avez raconté une partie de ce parcours dans un livre d'entretien accordé à Philippe Dumarteret, c'est bien ça son livre. Titre de ce livre, Helvétiser la France, hein, c'est tout un programme. Très jeune, vous avez rejoint le PSU de Michel Rocard, si je ne m'abuse.
Oui, tout à fait.
Vous racontez que vous avez fait une partie de vos études au petit séminaire de Nancy, que vous avez même été tenté par la prêtrise.
Oui,
les questions spirituelles vous intéressaient déjà?
Ah, sans doute, oui, probablement.
Vous avez fait des études de théologie à Strasbourg, théologie, mais aussi philosophie et histoire de l'art.
Surtout philosophie, mais en fait les deux, oui, les trois même d'ailleurs.
Et vous avez enseigné la philo?
J'ai enseigné la philo dans le secondaire avant de partir à l'université.
Voilà, vous avez enseigné, je crois, à Troyes. Vous avez vécu en Allemagne et puis vous êtes installé en Suisse, à Lausanne, où vous enseignez. Puis vous êtes installé aussi là-bas parce que je crois que votre épouse est suisse.
Enfin, d'origine.
D'origine. J'ai vu que vous aviez...
Mon ex-épouse. Hein.
Vous avez écrit à une époque les discours de Jacques Chirac sur l'environnement.
Non. J'ai participé dans une petite cellule qui a effectivement rédigé les fameux discours d'Avranches, etc. Donc effectivement, la charte constitutionnelle de l'environnement, j'ai assisté à sa protonaissance.
En tout cas, c'est un sujet qui vous passionne depuis longtemps. Aujourd'hui, Dominique Bourg, notre modèle de développement est en crise et pourtant on s'accroche à la croissance, c'est ça le problème, alors qu'elle produit des inégalités désormais?
Alors désormais, elle détruit le bien-être, elle surproduit des inégalités. Elle produit de moins en moins d'emplois, elle pourrait les détruire en masse avec certaines des techniques du numérique.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut changer par exemple la définition du PIB pour essayer de changer un petit peu notre modèle?
Écoutez, c'est même une évidence. Si vous voulez, le PIB, effectivement, pendant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, ben, débouchait justement sur les trois fruits que je viens de nommer. Hein. Augmentation du bien-être, plein emploi, réduction des inégalités. Ça fait 40 ans que c'est grippé, et c'est même plus que grippé. Désormais, c'est même l'inverse qui est produit. Donc, continuer à garder cet indicateur, c'est une espèce de folie collective.
Il faut changer de modèle, c'est ça?
Bon, écoutez, les trois fruits dont il était question étaient pas mal. Hein, plein emploi, réduction des inégalités et bien-être. C'était assez sympathique. Donc, en fait, comme on sait qu'on ne peut plus les produire avec la croissance, et qu'au contraire, la croissance les détruit, hein, tout ce qu'on appelle le franchissement des limites planétaires, c'est la conséquence directe à la fois de nos flux de matière et de nos flux d'énergie, et indirectement de notre démographie, et directement pour les aspects sur la biodiversité.
Pourquoi dites-vous qu'il faut oublier la notion de développement durable?
Ben, si vous voulez, vous regardez les courbes qui retracent nos activités et nos dégradations, le haut des courbes, là on détruit le plus, c'est le développement durable.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Passer à des exemples d'économie circulaire, de permaculture?
Alors vraiment, économie circulaire, on en est vraiment loin. Une économie vraiment circulaire, c'est une économie avec des flux de matière et des flux d'énergie qui régresse. Donc c'est une économie qui, au bout du compte, va produire moins de richesses, mais va la distribuer autrement.
Alors justement, ça tombe bien, on va prendre un exemple concret de ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, avec des petites choses, additionner les unes aux autres. On va passer aux bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
On va se demander par exemple pourquoi abandonner un vélo cassé, pourquoi ne pas le réparer plutôt, surtout si on n'a pas d'argent. Ce soir Sandrine, vous nous présentez Solicycle, c'est une petite association qui a trouvé la solution.
La solution, c'est de nous mettre dans la main la pince, le tournevis, la rustine et la chambre à air. C'est nous qui allons réparer. Des mécaniciens sont là pour nous montrer quoi faire et dans quel sens tourner, mais le but, c'est d'apprendre. Ça peut aller de la petite panne comme un pneu crevé, un problème plus compliqué sur un pédalier par exemple. On trouve sur place des outils et des pièces de rechange. Il faut savoir que près de la moitié des vélos abandonnés sur les trottoirs le sont pour un tout petit bobo. Solicycle, c'est juste de l'anti-gaspi.
J'imagine que ce n'est pas gratuit.
Presque, puisque ça coûte 20 euros par an. 20 euros par an et par famille, c'est difficile de trouver moins cher.
Et si mon vélo est irréparable?
L'association récupère aussi des vélos dans les déchetteries et des vélos cédés par des particuliers. Elle les démonte, elle les remonte et elle nous les vend à des prix imbattables.
À l'origine de ce projet, l'association Études et Chantiers, qui remet en selle, si l'on peut dire, des hommes et des femmes très éloignés de l'emploi. Les mécaniciens de Solicycle sont tous en contrat d'insertion. Il y a déjà 6 antennes, 2 à Paris, 4 en banlieue, direction celle de Clichy dans les Hauts-de-Seine.
C'est une véritable caverne d'Ali Baba. Il y en a partout, même sur les murs. Des pinces, des clés, des écrous, des pneus et au milieu de tout ça, des élèves particulièrement studieux.
Là, c'est pas bon. Hein.
Non, recentre la roue. Ah oui. Tiens, voilà.
Donc là, on peut la remettre.
Oui, tu peux la remettre sur le support.
Quel est votre prénom, monsieur ?
Raymond.
Raymond, qu'est-ce qui arrive à votre roue ?
Il y a un léger voile. Ça empêche en fait les patins de frein de bien venir au contact de la jante.
Et vous ne saviez pas réparer ?
Non, ce genre de truc, non, pas du tout.
Cette idée de auto-réparation de venir, comment vous trouvez ça ?
Moi, j'aime bien l'espèce d'autonomie que ça peut apporter. Réparer une crevaison, tout ça, c'est toujours sympa de le faire tout seul, quoi. Enfin, moi, c'est pour ça. Au lieu de tout de suite aller au magasin en racheter une, je vais essayer déjà de voir si je peux pas réparer un peu tout ça.
Merci Raymond. Ricardo sur l'établi d'à côté. Qu'est-ce qu'il arrive à votre vélo là ?
J'ai un rayon cassé d'une roue. Du coup, il faudrait monter la cassette, prendre la mesure des rayons, et trouver les rayons qu'il faut. Et voilà.
Je vous ai vu arriver comme si vous étiez chez vous là avec votre vélo.
Ça fait des années que je suis là. Je viens ici depuis 2012, il me semble.
Depuis que vous fréquentez ce lieu, vous avez appris quoi par exemple ?
J'ai appris à monter une roue. Je ne savais pas comment monter une roue. Changer une cassette, dévoiler. Chaque fois que j'ai un pépin, bon, j'apprends autre chose.
Je vous laisse travailler.
Très bien, merci beaucoup.
Là, pour le coup, elle est trop longue.
Bah ouais, mais en même temps...
C'est... T'es en combien ? En 32 ?
Ouais, 32 devant. Mehdi Zainoun est coordinateur technique de Solicycle.
En fait, ils pourraient très bien le faire tout seuls dans leur salon, avec le vélo à l'envers, en essayant de se débrouiller sur Internet, mais ils savent pas faire.
Qu'est-ce qu'ils ne savent pas faire ?
Des fois, des choses aussi basiques que réparer une chambre à air. Et ça peut faire qu'un vélo bouge pas, alors que c'est plutôt simple et rapide de réparer une chambre à air.
C'est ça le souci, c'est on a tendance à laisser pour rien le vélo dans le local à vélo. Quoi.
Exactement, en fait, ça part d'un petit bobo, un frein qui freine pas ou pas bien, et en fin de compte, le vélo il bouge pas, il se dégrade, et en fait on part d'un petit bobo et on arrive à un vélo qui est plus du tout roulable, qui à la base avait pas grand chose pour pouvoir rouler. Sur les 3 millions de vélos qui se vendent chaque année, 9, il y en a 1,5 million qui sont jetés. Et ça part toujours d'un petit bobo.
Là il faut que t'aies juste un côté qui passe. Voilà, parfait.
Pourquoi ça vous fait rire ?
Parce que moi je suis en train de découvrir tout le monde du vélo.
C'est une bonne idée ces ateliers.
C'est aussi l'échange entre les personnes, qui n'est pas forcément le cas dans des ateliers de vélo où soit on amène notre vélo, quelqu'un va réparer directement la roue. Donc c'est à la fois le côté connaissance du vélo mais aussi l'aspect humain.
Remettre le lien social en selle, c'est aussi l'objectif de Solicycle, Myriam Dauphin, sa présidente.
Tout le monde apprend à faire du vélo, tout le monde n'apprend pas à faire du tennis ou du bateau. Tout le monde apprend à faire du vélo, donc c'est transgénérationnel, c'est transcouche sociale. Puis tout le monde a une histoire avec le vélo finalement. Donc c'est pour ça que le vélo c'est super fédérateur et que ça a un rôle au-delà de l'écologie, un rôle social à jouer.
Utile, économique, convivial et solidaire, les mécaniciens sont tous sans contrat d'insertion. Parmi eux d'ailleurs beaucoup de femmes.
La mécanique est souvent réputée réservée aux hommes et on pense que faut battre en brèche les genres sur les métiers. Et donc quand on fait du recrutement, on insiste fortement pour dire que les femmes peuvent venir. Voilà, elles ont leur place. La mixité aussi, elle est au cœur des valeurs de notre association.
Isabelle, par exemple, pour elle se former à la mécanique du vélo, c'est l'espoir de trouver un emploi stable. Elle est toute seule à élever ses 4 enfants.
J'étais femme de chambre. Ménage et repassage.
Plein de petits boulots, quoi.
Oui, le vélo, pour dire la vérité, je ne connaissais pas. Quand j'ai pu rentrer ici, j'ai dit, comment je vais venir ici? Comment je vais faire? Parce que je ne connais pas rien. Il nous montre comment on fait, parce que c'est important pour découvrir le métier. Il y a beaucoup de choses que je commence à connaître un peu. Par exemple, ça, avant, je ne connais pas. Quelle est la pipe? Quand quelle est que je vais prendre 15, 17, 16.
Vous êtes fier de vous?
Oui.
Merci beaucoup Sandrine pour ce reportage, c'est super. Solicycle, toutes les infos sur solicycle.org. Dominique Bourg.
C'est magnifique, l'autonomie par l'entraide et tout ça pour la sobriété, c'est génial, bravo.
La question écologique, c'est... Il doit prendre ce chemin, c'est cette évolution-là.
Je vous dis, écologie sociale, ça ne peut pas se séparer. Et là, vous avez un exemple magnifique. Et en France, il y a plein d'initiatives de ce type-là.
Plein d'initiatives dont on oublie de parler, peut-être.
Elles sont extraordinaires. Et là, vous avez vu, les effets sont énormes. Aussi bien sur les gens entre eux que sur les flux de matière derrière.
Alors en plus, le vélo, c'est bon pour la planète.
Pour la santé.
Voilà, et pour la santé, vous avez entièrement raison. Tout à l'heure, on l'a dit, on parlera de la voiture au téléphone sonne. C'est un des sujets de colère des Gilets jaunes. En novembre dernier, vous étiez venu sur cette antenne, Dominique Bourg, et vous nous aviez dit que vous viviez dans un pays qui permettait de ne pas avoir de voiture. C'est un pays qui permet d'aller partout en train, c'est ça avec
En train ou le car postal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une station de montagne suisse qui ne soit pas accessible. Un petit village, même pas une station, qui ne soit accessible par un car postal après le train. Si vous voulez, c'était la légitimité de l'État fédéral. C'était permettre que tout Suisse puisse aller d'un endroit à un autre. Et chez nous, on l'a cassé, c'est dommage.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dont on pourrait prendre, qu'on pourrait prendre en exemple. À vous lire, la France vous désespère un petit peu, trop de conflits, d'antagonisme, de division, je me trompe?
Oui, enfin j'adore la France, hein. Je suis français aussi, franco-suisse, mais effectivement il y a un degré de tolérance à la violence qui est quand même quelque chose de très étonnant.
Et puis surtout c'est un pays qui a besoin de révolutions successives pour avancer, c'est un peu ça.
Alors oui, c'est effectivement un pays qui n'a jamais réussi à se réformer, il ne peut se changer que par les soubresauts.
Plus de décentralisation, c'est ça?
Je vais répondre par humour, évidemment, il ne faut pas prendre son premier degré, mais je me souviens dans les années 80, un article du Monde qui était très marrant, les Suisses envahissaient les Français, et effectivement, tout tournait mieux dans ce pays. Il faut s'inspirer de ce qu'on peut faire de façon plus douce ailleurs.
Vous dites que ce qui serait bien, en tout cas, c'est déjà de ne plus élire de président et d'avoir un régime parlementaire. Si, dans Helvétiser la France, c'est écrit.
Pas seulement là, je l'ai répété ailleurs, dans les livres sur Réinventons la démocratie vers la 6e République. Oui, le président de la République française, enfin d'ailleurs on le voit aujourd'hui, si vous voulez, c'est une forme de poste un peu absurde, quoi. C'est-à-dire que vous avez tout concentré, tous les pouvoirs sur une seule personne, c'est dingomaniaque comme histoire.
Mais ça nécessite effectivement un changement de fond avec une assemblée qui serait notamment des assemblées un peu différentes.
Oui, alors ce que j'ai proposé avec d'autres, c'est effectivement ce qu'on appelle une chambre du long terme, etc. Une troisième chambre. On a cru à un moment donné, avec un certain discours de début juillet, il y a une année et demie, qu'on pourrait aller vers ça. En fait, mes désillusions ont été profondes.
Vous pensez qu'il y a urgence à réformer parce que il y a Trump aux États-Unis, il y a aussi des pays d'Europe qui sont en train de choisir une voie qui peut ressembler à celle-là.
C'est une urgence. Très clairement, on a dans beaucoup d'endroits au monde des partis populistes qui arrivent au pouvoir, Trump, Bolsonaro, en Autriche, l'AFD qui est là dans l'UDC, en Suisse, c'est pareil, qui n'est pas au pouvoir mais qui est climato-sceptique. Tous ces populistes ont un trait commun. Ils sont tous climato-sceptique, contre l'environnement et contre les droits. Et en fait, contrairement à ce qu'on dit, on dit voilà, l'écologie va nous amener le fascisme ou l'autoritarisme. C'est rigoureusement l'inverse. On est en train d'avoir le fascisme sans environnement au moment où on a 10 ans pour sauver sa peau. C'est pas tout à fait génial.
En plus, des dirigeants qui, vous reprenez l'exemple de Trump, vous soulignez l'absurdité de la situation, un tiers de ceux qui ont voté pour le milliardaire Trump vivent en dessous ou juste au-dessus du seuil de pauvreté. Il y a quelque chose d'aberrant dans...
C'est un gag, si vous voulez. C'est pas possible sans sans Fox News et de manière générale, sans les algorithmes de Google et d'autres. Vous prenez par exemple sur Google, vous avez accessible 6 millions de vidéos pour vous dire que la Terre est plate. Et les algorithmes de Google leur font incessamment de la publicité. Ne vous étonnez pas qu'on ait des difficultés à réformer les sociétés.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors?
Déjà de ce côté-là, c'est très simple. Ça peut s'interdire. Ça, c'est très facile. Vous n'êtes pas obligé d'encourager tout ce qui rend les gens crétins.
Interdire et réfléchir. Merci beaucoup Dominique Bourg. On va renvoyer quand même à quelques-uns de vos livres. Il y en a tellement que je ne sais pas lesquels choisir. Il y a une nouvelle terre, Helvétiser la France, écologie intégrale aussi, le manifeste dont on parlait tout à l'heure. Après le journal de Sébastien Paour à 19h, évidemment les 80 km/h. Pourquoi une telle colère alors que justement le nombre de morts sur les routes est au plus bas, et cela depuis que les chiffres de la sécurité routière existent. On sera notamment avec le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, qui a donné ces chiffres. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser sur ce bilan, c'est le moment ou jamais. Vous nous appelez au 01 45 24 7000.